Alors, on va dire l'endroit, hein, où on est. Je suis à Saint-Antoine. Très bien. Je travaille la parole. Ah, c'est super.
Rencontre avec l'unité neurovasculaire de l'hôpital Saint-Antoine à PHP Paris. Une coproduction APHP, CNRS, EHESS.
Je suis le professeur Sonia Alamovitch, chef de service du service de neurologie et d'urgence neurovasculaire à l'hôpital Saint-Antoine. C'est un hôpital de l'assistance publique et je suis également membre du conseil d'administration de la Société française de neurovasculaire. Le service est un service d'une cinquantaine de lits et la moitié de ces lits sont consacrés à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux qu'on appelle AVC. Qu'est-ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral ? Par définition, c'est une lésion du tissu cérébral qui est provoquée par une atteinte du vaisseau. Derrière ce terme un petit peu générique, en fait, il y a plusieurs maladies différentes. Il y a deux grands groupes qu'il faut distinguer. Il y a ce qu'on appelle les AVC ischémiques. Une artère se bouche et à ce moment-là, le cerveau est privé de sang. Si le cerveau est privé de sang, il n'a plus ce dont il a besoin pour se nourrir, c'est-à-dire l'oxygène et le sucre, et à ce moment-là, il risque d'être détruit. Ensuite, on a les AVC hémorragiques. Là, ce n'est pas une artère qui se bouge, c'est une artère qui se rompt. Et à ce moment-là, il y a du sang qui va arriver soit à la périphérie du cerveau, soit à l'intérieur du tissu cérébral. Et ce ne sont pas les mêmes traitements. Dans certains cas, il faut déboucher une artère. Dans d'autres cas, il faut la réparer ou alors éviter que ça saigne. Donc on est vraiment dans des prises en charge qui sont radicalement différentes. Dans cette prise en charge, il y a deux aspects. La prise en charge diagnostique, c'est les examens d'imagerie qui permettent de dire quel type d'AVC. Et puis la prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour traiter les gens.
Je suis Nicole Guinel, je suis orthophoniste et je travaille aux urgences neurovasculaires de l'hôpital Saint-Antoine à PHP à Paris. On est situé dans le 12e arrondissement. En fait, moi, je ne travaille qu'avec des patients qui ont fait des accidents vasculaires. La spécificité du travail aux soins intensifs, c'est de travailler avec les patients dès qu'ils arrivent le plus tôt possible. Très souvent, le plus urgent pour nous, c'est la démutilisation. On peut avoir des patients qui, suite à l'accident vasculaire cérébral, deviennent complètement mutiques, ne savent plus comment parler. Et plus on intervient tôt et meilleures sont les chances de récupération. Lorsque les gens font un accident vasculaire cérébral, il peut y avoir différentes zones du cerveau qui sont touchées. Donc on n'aura pas les mêmes symptômes, on n'aura pas les mêmes troubles. On a deux hémisphères en fait. On a l'hémisphère gauche qui s'occupe particulièrement du langage et on a l'hémisphère droit qui est plus dédié à la gestion de l'espace, aux intonations, à la mélodie. On a souvent une aphasie lorsque l'hémisphère gauche est touché. Et l'aphasie, c'est la perte partielle ou complète du langage. Donc on peut se retrouver avec simplement un manque du mot, avoir le mot sur le bout de la langue et puis voilà, il vient pas et on a besoin d'une ébauche orale de la part de l'orthophoniste pour pouvoir produire le mot. Ou alors c'est une perte complète et donc c'est un mutisme. Et les gens peuvent ouvrir la bouche et ne plus savoir comment faire un son. Nous, on travaille beaucoup au chevet des patients. Nos patients, ils sont souvent alités. Ils sont intransportables dans nos bureaux. Donc du coup, on travaille essentiellement au chevet du patient. On a aussi tout un travail auprès des familles pour réexpliquer les troubles avec des termes parfois peut-être un peu plus simples. Et on peut commencer à donner des premiers conseils sur comment stimuler, ce qu'il ne faut pas faire pour éviter que les gens aggravent leurs troubles. Le gros risque parfois, c'est lorsqu'ils arrivent à dire le premier mot, c'est que tout le monde les encourage à redire ce mot et en fait ça peut les entraîner dans une stéréotypie. Et on a aussi un gros travail de suivi post-hospitalisation, c'est-à-dire lorsque les gens peuvent rentrer à domicile et ont besoin d'orthophonie, on essaie de leur trouver une orthophoniste près de chez eux. Et sinon, lorsqu'ils partent en centre de rééducation, on contacte les orthophonistes des centres pour qu'elles sachent exactement quelle a été l'évolution du patient. On forme aussi des stagiaires. Personnellement, moi, je prends deux stagiaires par semestre depuis quelques années déjà.
Elle m'a dit Nathalie, donc je vais aller le voir.
Surtout pour la première fois, il a eu, enfin moi, je
vais
le déglutir de façon normale.
D'accord.
Enfin, normal.
Oui, oui.
Enfin, il a pas tous, il a toussé avant et après il s'est repris, il a pas toussé.
D'accord. Bon bah, oui, je m'en occupe.
Et il a sa sonde là.
D'accord.
un point essentiel. Il faut que les patients arrivent le plus vite possible dans notre service, parce que plus on intervient tôt, plus on va éviter que le tissu cérébral souffre pendant trop longtemps et que les dégâts soient irréversibles. Une fois que le patient arrive, on fait l'imagerie et on voit quel est le type d'AVC. Quand on est dans un infarctus cérébral, c'est-à-dire une artère qui se bouche, l'objectif, c'est de déboucher l'artère. On a certains médicaments qu'on peut administrer en perfusion qui permettent de dissoudre le caillot qui a à l'intérieur de l'artère. Ces médicaments sont très puissants, mais ils n'arrivent pas à déboucher toutes les artères. Donc dans certaines situations, pour déboucher une artère, ce n'est pas seulement les médicaments, mais c'est aller extraire le caillot qui est à l'intérieur de l'artère du cerveau. Pour extraire ce caillot, ça a lieu par voie endovasculaire. C'est-à-dire qu'il y a une piqûre de l'artère qui a lieu au niveau de l'aine, et ensuite le cathéter qui sert à aller chercher le caillot et remonter dans les artères cérébrales. On attrape le caillot et à ce moment-là, l'artère est débouchée. Donc le cerveau reçoit à nouveau du sang et à ce moment-là, on évite la destruction du tissu cérébral. Dans les hémorragies, quand c'est une hémorragie méningée qui est liée par une rupture d'une malformation vasculaire, il faut aller traiter cette malformation vasculaire. Pour la traiter, c'est soit un geste de radiologie interventionnelle, c'est pareil, c'est aller à l'intérieur des artères pour guérir la malformation vasculaire. Beaucoup plus rarement, c'est une intervention chirurgicale. Mais la prise en charge, ce n'est pas que des médicaments ou des gestes. C'est une prise en charge au sein du soin intensif qui va inclure une surveillance avec des infirmières spécialisées et la mise en place d'une rééducation quand il y a une paralysie, de la kinésithérapie, quand il y a une perte du langage, de l'orthophonie. Toutes ces fonctions qui, malheureusement, sont perdues quand l'accident vasculaire cérébral a fait des dégâts, elles ne sont pas perdues définitivement. Parce que même si on n'a pas pu traiter dans les premières heures, ou même si on a traité mais que le résultat n'a pas été parfait, cette prise en charge de rééducation précoce va permettre aux patients d'avoir une récupération. Parce que le cerveau, il sait faire avec. C'est-à-dire quand il y a une lésion à un endroit, si on l'aide, il sait se réorganiser pour arriver à pallier le déficit, qui va être de la mobilité ou le déficit du langage ou de la vision.
Ça va ?
Ouais.
Alors, on commence toujours le visage. On y va ? Ouvrir, fermer la bouche. Très bien. Tirez la langue, droit devant, sur les côtés, en haut et en bas. Gonflez les joues. Très bien. Encore une fois. C'est super, bravo.
Nous, on a plusieurs techniques. On a soit des séries automatiques, lancer les gens vers quelque chose qu'ils connaissent déjà, et parfois utiliser le chant, ce qui permet de solliciter aussi un petit peu l'hémisphère droit, où on a aussi un peu de langage. Et l'hémisphère droit est quand même plus spécialisé dans la musique, dans les intonations, dans l'émotion. On arrive à coupler ces deux hémisphères et à pouvoir produire du son. On peut commencer avec des chansons comme Frère Jacques, Au clair de la lune, et s'appuyer sur aussi des chansons que les gens connaissent et aiment bien. Et après, on passe à une autre technique qui est la mélodithérapie. Par exemple, on va dire « Je m'appelle Nicole Guinel ». Le projet Tradaphasia, il est né en 2011. À l'époque, mon service était à l'hôpital Tenon. On a été transféré sur Saint-Antoine en 2014. Mais en 2011, en fait, j'ai une patiente polonaise qui est arrivée complètement mutique. Et elle était en France depuis 2 mois, ne parlant pas français. Elle avait trouvé, via des connaissances, un petit travail de femme de ménage. Et elle a fait un accident vasculaire massif et elle s'est retrouvée complètement mutique. Elle n'arrivait plus à prononcer un mot. Elle était complètement angoissée parce que je pense qu'elle ne comprenait rien de ce qui se passait en français. Et c'est une de ses collègues qui l'avait trouvée dans les vestiaires qui est venue la voir à l'hôpital. Et on a commencé à travailler ensemble avec la collègue qui traduisait un petit peu mes exercices. Et c'est là que j'ai pensé à enregistrer mes exercices pour travailler avec ma patiente. Donc j'ai commencé à faire des enregistrements avec le personnel bilingue et aussi à chaque fois qu'un patient ne parlant pas français ou peu français arrivait, je faisais les enregistrements avec sa famille. Au départ, j'étais un petit peu isolée dans mon coin parce que moi, je travaillais avec mon dictaphone dans mon service. Et j'ai rencontré Marion Dupuis et c'est elle qui m'a dit... En fait, il faudrait créer un site pour pouvoir le diffuser et voilà, que ce soit beaucoup plus accessible à d'autres services, d'autres UNV.
Alors, on va regarder un petit peu ces photos, on va regarder ce que font les gens. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait là ? Comment on pourrait dire oui ? Il boit. Oui. Il boit un. Quand il y a une tasse comme ça, comment on pourrait dire ? Il boit un café. On le redit ? Il boit un café. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous, vous aimez bien le café ? Oui, vous aimez bien boire du café ? Oui ? D'accord.
Marion Dupuis, je suis chargée de médiation scientifique au CNRS, rattachée au CRAL de l'École des hautes études en sciences sociales. L'originalité de Tradaphasia, c'est d'utiliser le son pour la prise en charge des patients. Et l'autre particularité est que Tradaphasia est un projet de service public en accès libre et gratuit, hébergé sur une plateforme publique, la plateforme Hypothèse du portail Open Edition. En fait, pour expliquer simplement Tradaphasia, c'est un site web qui propose des fichiers audio d'exercices pour contribuer à la reprise de parole de personnes qui ont perdu le langage suite à un AVC. Tradaphasia s'adresse à des personnes qui ne parlent pas la langue de l'hôpital ou qui sont bilingues ou multilingues. Concrètement, on entend en audio une consigne en français et juste après, dans une autre langue. On peut à tout moment arrêter l'enregistrement ou faire répéter la consigne.
Retournez le verre, puis prenez les ciseaux.
请把杯子倒过来放，然后拿起剪刀。
On peut aussi montrer un objet et lancer l'audio. Donc on entend le mot en français et tout de suite après dans une autre langue, la langue du patient. À l'hôpital, en fait, ça fait plusieurs années qu'il y a eu des outils qui ont été mis en place pour contourner la barrière linguistique dans les services d'urgence hospitaliers, à travers des pictogrammes. Et il y a également un site qui s'appelle Tralelo, qui propose la traduction écrite des 50 phrases les plus utilisées dans les services d'urgence, et ce, dans en fait, plus de 100 langues, à partir d'un site internet. Ces deux outils qui sont innovants sont avant tout dans le domaine de l'écrit. Et nous, ici, on est dans un contexte très particulier, puisqu'avec des patients qui ont des troubles de langage, dans les heures et jours post-AVC. Et là, on se rend compte que l'écrit n'est pas adapté. Tradaphasia et sa version anglophone, Aphasia Translate, permettent de contourner deux écueils, la difficulté d'utiliser des bilans et exercices écrits, et la difficulté aussi d'avoir recours à des médiateurs ou interprètes. Le premier public, c'est les patients, et dans le cas de l'interface francophone, les patients qui ne parlent pas du tout le français. Ça peut être par exemple des touristes, mais ça peut aussi être des personnes en situation de migration qui ne maîtrisent pas encore le français. Certains peuvent être isolés socialement. Et du coup, ça induit une ouverture sociale dans la prise en charge des patients. Il y a également les patients bilingues ou multilingues avant leur AVC. Le second public, c'est les familles et les aidants des patients. Tradaphasia peut indirectement faciliter la relation avec la famille car on prend en compte leur culture, leur langue et créer une alliance thérapeutique. Et quand les familles effectuent l'enregistrement, elles deviennent actrices de la prise en charge pour leurs proches et des personnes qui parlent la même langue. Enfin, dans tous les cas de figure, c'est un outil de communication interculturelle. Le dernier public, c'est les orthophonistes qui exercent en neurologie. Il y a de plus en plus de personnels médicaux et paramédicaux qui proposent de contribuer à l'enregistrement.
Maintenant que le site est diffusé via les réseaux sociaux, je suis entrée en contact avec Morgane Le Galoudec, qui fait partie de l'association Orthophoniste du Monde. Il y a 2-3 mois, elle était en mission au Togo et au Bénin. Et elle a pu m'envoyer, via nos téléphones portables, 5 langues africaines différentes. Là, j'ai une orthophoniste qui vit en Albanie et qui m'a envoyé des enregistrements albanais que je suis en train de traiter. Et on commence à avoir des contacts un petit peu à l'international.
Et donc, Tradaphasia est en train de devenir un outil collaboratif. Dans ce projet, il y a des enjeux autour de la reconnaissance de la diversité linguistique. Des chercheurs en sciences du langage, comme Barbara Köpke, montrent que les recherches sur l'aphasie dans la première décennie 2000 portent principalement sur les langues dominantes en Europe, et notamment l'anglais. Elle montre qu'il y a un focus des recherches sur les populations occidentales et monolingues concernant les recherches sur les pathologies du langage. C'est intéressant de mettre à disposition des exercices dans des langues du monde entier.
Guten Tag.
Bonjour.
Merhaba.
Tashi dele.
Ni hao.
Vanakkam.
Desmat.
Kalimera.
Buenos dias.
Bonjour.
On n'a pas de données chiffrées sur les patients bilingues ou multilingues qui arrivent dans nos structures. Donc ce que je peux vous faire, c'est une approximation. On n'a pas de données chiffrées parce que, certes, tous les patients ont un dossier informatique. Donc dans ces dossiers, on va avoir le pays d'origine, mais on ne va pas avoir précisément ces caractéristiques qui sont liées à la langue maternelle, les acquisitions de langage, etc. Donc c'est des données qu'on n'a pas dans nos dossiers médicaux informatisés. Après, il y a la pratique, et là, ça va dépendre un petit peu de dans quel quartier on habite. Il y a des quartiers qui sont plus ou moins homogènes, socialement, culturellement, sur la région parisienne. Donc les choses vont être un petit peu différentes. Par exemple, si on est sur l'est de Paris, on prend en charge également les patients qui sont sur l'Île-de-France limitrophe, des arrondissements comme le 93, on a des populations qui vont être d'origine divers et variées. Sur l'ouest de Paris, on va avoir peut-être des proportions de patients qui vont être un peu plus homogènes. Estimation globale, hein, on a, moi je dirais, un patient sur 5 qui correspond à une langue maternelle qui a pu être double ou autre. Mais voilà, c'est une approximation, je n'ai pas de données beaucoup plus précises.
Quand Tradaphasia a été lancé en novembre 2017, il y avait 16 langues disponibles dans la version francophone. Et maintenant, on propose 50 langues dans chacune des versions, la version francophone et la version anglophone. Le numérique et l'accès ouvert combiné en fait, permettent de toucher un public plus large parce qu'il n'y a pas d'abonnement à payer, il n'y a pas de coût. Quelques mois après le lancement de la version francophone en novembre 2017, on s'est rendu compte via les statistiques que le site était consulté au Canada, en Suisse, en Belgique, mais aussi en Algérie et au Maroc. Et cet intérêt naissant d'autres pays que la France pour Tradaphasia qui nous a incité à créer une version anglophone.
Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream.